La dysmorphie financière. Ah, à partir de combien sur le compte bancaire on est riche? Ah, je pense que si j'ai 5000 euros sur mon compte, je suis riche, hein. Je suis vraiment bien.
Bonjour à toutes et à tous, quelle joie de vous accueillir dans un nouvel épisode de Zoom Zoom Zen. Chaque après-midi, c'est vraiment un plaisir de vous retrouver pour deux heures de décryptage de notre époque à travers ces mots, ces expressions et en plus, en ce qui me concerne, d'être payé pour ça. Oui, Zoom Zoom Zen, c'est une émission win-win. Le gai savoir pour vous, la joyeuse moula pour moi. Et si je vous parle d'argent aujourd'hui, c'est qu'on va zoomer sur un phénomène intriguant qui concerne notamment les jeunes actifs, les moins de 35 ans et dont Quentin, lui, est hélas le triste prototype. Ce phénomène, c'est la dysmorphie financière. Une nouvelle forme d'anxiété déformant notre perception de l'argent qui nous amène à douter de notre situation même lorsqu'elle est stable. Les réseaux sociaux amplifient ce phénomène, poussant 40% des jeunes à dépenser au-delà de leurs moyens pour maintenir une image virtuelle. Et voilà comment un intermittent du spectacle, responsable d'un micro-trottoir, se met à sauvagement ponctionner son PEL pour pouvoir parader dans Radio France avec un suite Balenciaga. Comme s'il était aussi riche que Yann Marguet, alors que non, Quentin, vous n'êtes pas aussi riche que Yann Marguet, vous êtes juste un peu plus riche que Merwan Benlazar. Vous ne pouvez pas dépenser tout votre argent dans le luxe, en plus ça ne sert à rien. Malgré tous vos efforts, Loïc Prigent trouve quand même que vous ressemblez à une cagette de fruits. Alors vraiment, notre invité vous le dira, vous feriez mieux d'épargner. En plus, Balenciaga, je vous le dis, c'est en train de devenir un peu has-been.
Moi, j'ai l'air has-been. J'en ai pour plus d'une barre de fringues sur moi. Alors va te faire mettre.
Mais c'est ça votre problème, Quentin. Dès qu'on vous fait une remarque, vous prenez la mouche. Mais que vous le voulez ou non, vous allez apprendre énormément de choses cet après-midi. Zoom Zoom pèse, c'est parti.
Zoom Zoom Zen.
Bonjour Michael Mango.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi, Michael. Vous êtes économiste, vous enseignez à l'ESSEC et vos deux spécialités sont assez particulières, l'économie comportementale et l'économie du bonheur. Alors déjà en deux mots, c'est quoi l'économie du bonheur ?
Eh bien, c'est une discipline tout à fait sérieuse qui regarde comment les comportements économiques des gens et leur situation économique sont reliés à leur niveau de bonheur.
Directement.
Direct, parce qu'on a les données sur tout et donc on peut connecter les données.
Vous allez donc nous expliquer de ce qu'on entend par dysmorphie financière, juste le temps de vous présenter deux spécimens de ce que, dès les années 90, MC Solar appelait des... Manon Mariani Quentin, lui, plus de 3 barres de fringues sur eux au moment où nous parlons. Bonjour.
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 Bonjour à tous.
Bonjour tout le monde.
Donc la dysmorphie financière, Michael Mango, cette idée d'avoir l'impression de toujours manquer d'argent par rapport aux autres, c'est une forme de jalousie déjà
Pas vraiment, c'est effectivement ça dépend de la tendance qu'ont les gens à se comparer aux autres. Et ça, si tout le monde se compare, ça c'est clair, tout le monde ne se compare pas autant. Donc il y a vraiment des personnalités qui sont plus promptes à la comparaison et donc eux ont vraiment plus de chances de tomber dans l'anxiété financière ou dans la dysmorphie financière, ce qui est un peu différent.
Il y a déjà donc une prédisposition, on est tous plus ou moins prédisposés
psychologique, tout à fait.
À ressentir ça.
Donc déjà psychologique, oui. Et à côté, vous avez la chance ou la malchance d'avoir le bon réseau d'amis. Si vous êtes entouré d'amis riches, c'est foutu. Hein,
c'est foutu pour vous.
Bah, oui. Ouais.
Lui, je vous le dis honnêtement, il est entré dans sa 51e année, il ne comprend pas grand-chose à tout ça. Ce qui compte pour lui, c'est la santé. Que son dos cesse de le faire souffrir. Après, un bon bridge pour pouvoir continuer à manger solide le plus longtemps possible, voilà tout ce qu'il demande. Bonjour Cyril Lacaille.
Bonjour Mathieu Noël, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et en plus tu tousses, mon
gars. En plus je tousse.
Alors, prendre du sirop. Hein,
je prends du sirop.
Il a acheté un petit sirop, il a son Toplexil sur le bureau. Cyril, racontez-nous cette dysmorphie financière, d'où ça sort?
Imaginez, vous gagnez correctement votre vie, vous avez de quoi vous faire plaisir, une côte de bœuf maturé par-ci, une épaule d'agneau par-là, vous payez votre loyer à temps, pourtant, chaque fois que vous jetez un œil sur votre compte Instagram, vous avez l'impression d'être à sec. Non que vous l'êtes vraiment, mais parce que votre cerveau vous joue un drôle de tour. Eh bien, c'est ça la dysmorphie financière. En fait, c'est une cousine de la dysmorphie corporelle, ce principe selon lequel certaines personnes, quand elles se regardent dans le miroir, se voient trop grosses, trop maigres, trop grandes, trop petites. Alors, en fait, que leur corps va bien. Eh bien, cette notion de dysmorphie financière est apparue quand des jeunes adultes ont commencé à expliquer qu'ils ne se sentent jamais riches, même après avoir été augmentés.
Un sentiment qui relaie évidemment sur les réseaux sociaux.
Oui, ces vitrines permanentes de la consommation. Instagram, c'est la version moderne de MTV Cribs. Vous connaissez peut-être cette émission Maison de Stars en version française, émission où des caméras, visitent les demeures des vedettes du show business. Je vous recommande l'épisode sur le penthouse de Mathieu Noël.
Bon,
mais là, c'est dans la vraie vie ou presque. Tout le monde s'affiche avec des baskets à 300 euros. euros en voyage dans des hôtels de rêve ou des brunchs dans des palaces. Et forcément, quand on regarde dans son miroir, votre quotidien paraît toujours trop modeste. Bref, la dysmorphie financière, c'est une illusion très contemporaine, car si dans les années 80, on se comparait à ses collègues, sa famille, ses amis, désormais, on se compare à Kylie Jenner, et forcément, ça pique un peu. Alors, d'où ça sort, la dysmorphie financière? De là, et ce n'est que le début de notre histoire.
Merci Cyril. Alors, Michael Lang, on ne va pas tourner autour du pot longtemps dans cette émission. Cette dysmorphie financière, elle a toujours existé, mais elle est quand même boostée à fond par les réseaux sociaux.
Tout à fait. Mais pour vous répondre, j'ai quand même des difficultés parce que le concept, il n'est pas encore bien documenté par la recherche. Ah. Il n'est pas du tout considéré comme une pathologie par les associations de psychiatres.
Ah, oui.
Donc c'est plutôt un mot qui fait le buzz.
Ouais.
Mais qui a du sens parce qu'il se rattache très bien à deux choses qui ont déjà été vues, mais depuis des dizaines d'années. Mmh. C'est-à-dire, un, l'anxiété financière qui est assez générale et que l'on retrouve aussi chez les riches, pas que chez les pauvres. Et deux, les erreurs de perception. Les gens ne savent pas du tout se situer sur l'échelle des revenus. Il y a un biais du milieu qui est évident.
Qu'est-ce que le biais du milieu ?
Le biais du milieu, c'est que vous soyez riche ou pauvre, vous avez l'impression d'être dans la classe moyenne.
Ah oui.
Mmh. Alors, et là, on sait très bien l'expliquer. Hein. C'est que...
Enfin, Kylie Jenner, elle se doute qu'elle n'est pas dans la classe moyenne.
Oui, alors on parle des gens normaux.
Non, oui. Voilà, mais on va dire, chez les gens aisés et chez les gens modestes, vous avez quand même une tendance à se dire classe moyenne. Et on l'explique très bien, c'est tout simplement à cause de l'homophilie. C'est-à-dire que ce n'est pas une pratique sexuelle.
Ah non, mais tout est possible.
L'homophilie, c'est le fait de se lier avec des gens qui nous ressemblent, qui ont le même niveau de revenu, le même niveau d'éducation, le même âge. Et du coup, fort naturellement, vous vous sentez moyen. Vous sentez moyen puisque vous êtes qu'avec des gens qui vous ressemblent. Mais les riches se sentent moyens parmi les riches et les pauvres se sentent moyens parmi les pauvres. Et du coup, quand on leur demande « mais vous faites partie de quelle classe au final ?», tout le monde se voit classe moyenne.
Alors, on a beau savoir qu'on ne peut pas comparer sa vie avec celle des stars américaines, des footballeurs qu'on suit sur les réseaux, qu'est-ce qui fait qu'inconsciemment, on le fait quand même ? Je veux dire, on sait bien que ça n'a pas de sens de se comparer.
Mais c'est la psychologie évolutionniste. Hein. C'est que nous sommes une espèce, l'espèce humaine est une espèce stratifiée et on a tous un radar pour le statut. Donc on sait reconnaître les signes de statut, mais
ça nous sert à quoi ? Ça doit nous servir à quelque chose.
La comparaison sociale, déjà il y en a trois comparaisons sociales. Ouais. Il y a l'ascendante, la descendante et l'horizontale.
Ouais.
Donc là on parle de l'ascendante. L'ascendante, elle sert à se motiver.
On se dit demain, si je bosse bien, si je fais tel truc, je vais pouvoir atteindre ce niveau.
Dans une, et il y a une logique potentiellement évolutionniste derrière, qui est la compétition sociale pour les partenaires sexuels, etc. C'est la base de la base. Et après, ça se décline après dans nos sociétés modernes, technologiques, ça passe par les réseaux sociaux. Avant, ça passait pas par les réseaux sociaux.
Je me tourne vers celle qui occupe désormais dans l'équipe seulement le deuxième plus haut rang nobiliaire. Marie Debrouwer, vous nous parlez d'une nouvelle émission assez singulière sur France.tv.
Le service public se porte à merveille. merveille, vraiment. Puisqu'à partir de ce soir, 18h, et pendant 504 heures jour et nuit, vous pourrez retrouver sur France.tv des images en direct, sans musique, sans commentaire, de la forêt de Rambouillet. Rambouillet, je connais bien, hein, puisque c'est là-bas que j'ai passé mon permis de conduire, et non pas une, mais deux fois. Ça vous intéresse pas trop comme info, je vois hein, quand je vous parle de ma vie que vous n'êtes pas dedans. Je comprends, après tout, nous sommes plus collègues, Camille. Cette émission de 3 semaines, sans intervention, sans montage, c'est ce qu'on appelle la Slow TV, ou la budgétaire TV. L'idée de la Slow TV, c'est moins de blablabla et plus de... Oh bah alors, qu'est-ce que c'est ? Le 20h de Léa Salamé ? Mais non, bien sûr. C'est le hurlement du cerf en rut qui cherche sa femelle, le brame. C'est la saison des amours des cerfs qui va être en direct à la télé. Donc, point télé 7 jours hein, sur TFX. Vous pourrez voir Giovanni rouler des pelles à Tiffaine dans la Villa des Cœurs Brisés. Et puis sur France.tv, vous pourrez voir un cerf fourrer une biche. Une rentrée média sous le signe du love, bien sûr. La seule différence hein, entre le programme du Brame des cerfs et la Villa des Cœurs Brisés, c'est qu'il n'y a pas Lucie Mariotti, coach love, pour dire aux cerfs de crier face à la mer pour oublier les trahisons du passé. Non. Pour cette chronique, je me suis vachement intéressée du coup à la reproduction du cerf. Donc voilà, 3 semaines, 1 mois par an, les cerfs et les biches se retrouvent et se font la cour. On peut notamment observer beaucoup de cerfs aller à Interflora. Ils y vont pour acheter un petit bouquet de fleurs. aux biches qui, elles, salueront l'effort, mais seront quand même déçues parce que c'est les pivoines, mes fleurs préférées, et pas les tulipes, merde. Il faut savoir d'ailleurs que tout au long de l'année, les mâles et les femelles ne vivent pas ensemble. La raison, eh bien, après avoir essayé de vivre dans une forêt commune, le cerf laissait traîner ses chaussettes après le sport et la biche, elle a pas que ça à foutre hein, de ramasser les chaussettes parce qu'entre les cours de tennis de la grande et le rendez-vous chez le pédopsie du dernier, eh ben, elle a pas le temps, la biche. Et oh là, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis possédée. Sors de ce corps, Marine Leonardi. Aïe, je sens mes oreilles pousser. Sors de ce corps. Et oui, parce que ceci n'est pas une chronique humoristique, ceci est une intervention pour dire à Marine Leonardi de quitter son mari. Une chronique sur deux pour nous dire qu'il préfère jouer au golf qu'étendre le linge. Top, Marine. Tu es de droite, donc prends une femme de ménage pour étendre le linge de ton mari quand il part remplir des trous. Merde. Marine Leonardi, peut-être pour celles et ceux qui n'auraient pas la ref, donc savoir, à savoir tous les gens qui n'ont pas d'enfants, c'est une humoriste maman de deux petits monstres. Voilà, hashtag mom of two, hashtag mom, hashtag maternité. Info notable, hein, 100% du public de Marine a des montées de lait pendant son spectacle. Elle a été obligée d'installer des tire-lait à l'entrée du théâtre hein, pour éviter tout accident de glissade. Pardon, c'est mon mec qui m'appelle. Je pense qu'il vient d'Interflora, si vous voyez ce que je veux dire.
On voit ce que vous voulez dire parfaitement. Merci beaucoup, Marie. À suivre, on va décrypter ce qu'est la connerie. Car oui, vous allez voir, c'est pas aussi évident que ça. On ira faire un tour sur le terrain avec Quentin. Et on parlera aussi de l'avenir de la voiture à l'occasion du Salon de Munich. Tout ça, c'est après The Jam, Town Called Malice.
Zoom Zoom Zen Mathieu Noël et toute sa bande.
Bonjour Jean-François Marmion.
Bonjour, je suis ravi que le service public salue en moi une référence en matière de conneries.
Ah bah c'est tout à fait pour ça qu'on vous a dit d'être psychologue et essayiste. Votre sujet de prédilection, c'est la connerie. Vous êtes même autoproclamé conologue. Autant vous dire que vous êtes au bon endroit pour étoffer vos recherches. J'ai de beaux spécimens. Et vous avez aussi dirigé de nombreux livres, dont la fameuse trilogie de la conologie, Psychologie de la connerie, Histoire universelle de la connerie et Psychologie de la connerie en politique.
Et il y a même la connerie en amour, si ça vous intéresse.
La connerie en amour,
mais oui,
en plus.
La France doit le savoir.
Ça existe aussi, ouais. Elle le sait désormais. Ça vaste sujet donc. D'ailleurs Jean-François, comment ça s'étudie la connerie? C'est un peu large comme champ d'étude.
Alors ça s'étudie de façon très scientifique avec des chiffres partout, mais surtout aux États-Unis. Mais de façon séparée, certains sont spécialisés dans les biais cognitifs, d'autres sont spécialisés dans les erreurs qu'on commet lorsqu'on est en groupe, ça c'est la psychosociale depuis un siècle. Voilà, d'autres sont spécialisés dans les stéréotypes, etc. Dans la violence, dans le sexisme, dans le racisme, tout ça, ça peut être chapeauté en français sous le terme général de connerie, qui est bien pratique, parce que les anglo-saxons n'ont pas vraiment l'équivalent. C'est plutôt la stupidité, stupidity. Ils n'ont pas vraiment l'équivalent de notre connerie.
Dumb,
c'est un peu idiot, c'est un peu bas du front. Ah, quoi.
Ouais, ouais, ouais.
C'est pas bullshit, par exemple, qui est encore autre chose. Ouais. C'est la post-vérité. Vous voyez, il y a toute une nuance, tout un nuancier de la connerie. J'ai toujours qu'il y a 50 nuances de con. Malheureusement, il y en a un peu plus.
Il y a tout un lexique aussi. C'est quoi j'ai appris l'existence de cet effet Dunning-Kruger.
Ah, l'effet Dunning-Kruger, du nom des psychologues qui l'ont identifié. On parle aussi parfois d'ultra-crépidarianisme, mais c'est pour faire le branleur. Ça, c'est autre chose.
Voilà.
Alors, ça, c'est quoi? C'est qu'on a toujours tendance, tous autant qu'on est, à se croire spécialiste de quelque chose qu'on ne connaît pas. Moins on s'y connaît, plus on a des jugements péremptoires en tapant du poing sur la table. Inversement, plus on maîtrise un sujet, plus on est prudent. Plus on se dit, oh, attends, c'est vachement compliqué à expliquer, j'y vais doucement. Donc les ignorants se prennent pour les experts se prennent pour des ignorants.
Est-ce que l'expression « il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis » est justifiée?
Alors, je pense que oui, parce qu'une des définitions possibles de la connerie, parce qu'il y en a littéralement des dizaines, une des définitions possibles, c'est la persistance dans l'erreur, la persistance satisfaite et agressive dans l'erreur.
Donc, ne parlez pas comme ça de François Bayrou, s'il vous plaît, monsieur, je vous interdis.
On pourrait en citer tellement.
C'est quoi la différence entre un con et un connard?
Alors, le connard, c'est le sale con.
Ah non,
c'est le con qui a tendance à se croire supérieur. C'est pas le cas de tous les cons. Les braves cons, les cons, ils se sentent pas supérieurs. Mais les sales cons, ils se pensent supérieurs et ça les autorise à mépriser ou écraser
type
ou torturer les autres.
Type Donald Trump?
Ah ben je l'attendais celui-là. Le type Donald Trump, mais il est pas le seul. Il y a beaucoup de chefs d'État dont on pourrait dire exactement la même chose aux quatre coins de la planète. Lui nous choque davantage parce qu'on se dit que dans une démocratie c'est pas normal. Mais il y en a plein d'autres qui sont même pire que lui. Et je pense que dans l'histoire des États-Unis, il y en a eu d'autres qui étaient pas mal, mais il n'y avait pas les réseaux sociaux pour qu'on mette le nez dessus.
Question importante, Monsieur Marmion, est-ce que la connerie a évolué dans l'histoire?
Alors. Est-ce que oui, bien sûr, la connerie évolue, ne serait-ce... Alors, il y a des fondamentaux. Notre cerveau, il n'a pas changé depuis 50 ans. Donc, il y a des fondamentaux dans la façon dont on réfléchit très très vite, etc. Ce qui a changé, c'est les modes d'expression de la connerie. Alors, évidemment, aujourd'hui, la connerie a un pouvoir de propagation qu'elle n'avait pas avant. Avant, quand on était con, on restait dans son village, on ne bougeait pas de son village.
Quelque part, le con, aujourd'hui, est grisé par les réseaux sociaux.
Ah ben, le con
ça
a un message...
Ça l'encourage à être encore plus con.
Le con a un message à délivrer au monde. Il faut que tout le monde écoute, même s'il n'a rien à dire. Donc ça c'est nouveau. Ouais. Avant, c'est l'imprimerie qui a changé. D'autant de l'imprimerie, il y a des gens qui disaient c'est scandaleux, n'importe qui va raconter des conneries et tous ceux qui savent lire vont être au courant. Bon, plus les moyens de propagation se diffusent, plus la connerie gagne en chambre d'écho. C'est pas pour autant qu'on est plus con qu'avant. Nuance.
Ouais, Quentin. Je reviens sur l'exemple de con et connard. Ça veut dire qu'on peut être un connard intelligent?
Bien sûr.
Oui.
La connerie n'est pas le contraire de l'intelligence. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a les cons qui sont un peu qui ont la tête vide. Ça, c'est ceux qu'on accusait autrefois d'être des paysans. Vous voyez, c'est les bêtes. Et puis il y a les sots. La sottise, c'est pas la même chose. La sottise, c'est les gens qui sont intelligents, qui savent lire, qui font des études, tout ça, mais qui mettent leur intelligence au service de la connerie et ou qui se perdent. Qui perdent le contact avec la réalité à force d'être dans leurs livres, ou qui mettent leur intelligence au service de thèses indéfendables, qui argumentent toujours pour défendre des trucs plus infâmes les uns que les autres. Ils sont intelligents.
Est-ce que le fameux test de QI prouve, par exemple, si on a plus de 120 de QI, qu'on est quelqu'un d'intelligent et qu'on peut donc échapper à ce qualificatif de con?
Alors, le QI seul, tous les psychologues vous diront que ça ne veut rien dire. C'est comme si vous me disiez, je suis amoureux, une fille, elle est géniale. Ah bon? Décris-la-moi. Elle fait du 38. Ouais, et donc, c'est tout. Ah, ok. Donc là, si je suis psychologue et que je dis, bravo, votre fille a 124 de QI, c'est tout, mais ça veut rien dire. Est-ce que ça veut dire qu'elle aime l'école? Est-ce qu'elle est bien avec ses parents? Est-ce qu'elle est bien socialement? Est-ce qu'elle a des projets? Est-ce qu'elle s'amuse? Est-ce qu'elle a eu des traumatismes? Le QI ne le dit pas. C'est un élément parmi beaucoup d'autres pour dresser la personnalité de quelqu'un, mais en aucun cas on peut se résumer aux chiffres du QI, qui ne sert pas à grand-chose entre nous.
Un QI important n'empêche pas d'être con, notons-le. Lui, il a plus qu'un énorme QI. Il a des capacités conceptuelles sidérantes. Quentin, vous êtes allé demander aux passants comment ils définissaient, eux, la connerie.
Allez, je marche le long d'un boulevard et avant d'entrer sur un chantier, cette équipe qui bosse dans le BTP écoute Joule.
À seulement moi, je suis. Mon cas s'est arrêté.
Joule qui chante l'amour et les yeux noirs comme sa Twingo. Est-ce que c'est con de comparer les yeux de son crush avec sa Twingo ou est-ce du génie? Je m'interroge. Et je tombe sur Gilles qui découvre le sujet du jour de Zoom Zoom Zen.
C'est la connerie. Globalement, pour moi, c'est le manque de réflexion. C'est-à-dire que si les gens réfléchissaient plus, pensaient par eux-mêmes, parce qu'en fait, aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile de penser par soi-même. Tout le monde est connecté sur les réseaux sociaux, donc on pense par rapport à... Enfin, on a comme avis l'avis général de ce qu'on a lu, mais on pense pas par soi-même. Voilà, c'est ça pour moi la connerie.
Est-ce qu'il en croit souvent, lui, des cons?
Oui. Enfin, ceci dit, est-ce que c'est la peine de leur dire qu'ils sont cons? Parce qu'on est toujours le con de quelqu'un. Je peux lui faire remarquer, mais je peux pas le blâmer pour ça.
Comment vous faites remarquer à un con qu'il est con, vous?
Lui dire ça sert à rien, c'est absurde. Et puis c'est très méprisant de dire à quelqu'un qu'il est con. Non, ça m'intéresse pas ça.
Oui, l'humain fait des conneries en général.
Exactement, en permanence. C'est pour ça qu'on est toujours le con de quelqu'un. Donc c'est rejeter les autres en leur disant qu'ils sont cons, c'est ne pas voir que soi-même on est aussi tout à fait perfectible.
Je ne parle pas aux cons, ça les instruit. C'est du Audiard taillé pour Gilles. Je croise la route de cette jeune femme qui a un exemple.
Pour moi, un con, alors j'ai un exemple très précis. C'est une personne qui est dans le métro et qui tu vois très bien qu'il y a une personne âgée à côté et donc du coup je lui demande de se décaler pour laisser la personne âgée parce que moi je suis pas assise. Excusez-moi monsieur, il y a une vieille dame qui aimerait bien s'asseoir, est-ce que vous pouvez vous lever? Non madame, je vois pas pourquoi je me leverais, elle a qu'à s'asseoir plus loin. Voilà, exactement cet échange, clair, net et précis. Voilà. Et puis ce qui est assez sympa à voir, c'est que les gens à côté ont aussi réagi et ont entendu la conversation. Donc ce qui fait que c'est sympa de voir que les gens réagissent. Il n'y a que ce con qui ne réagit pas et qui ne se lève pas. Bien évidemment, ce qui s'est passé, c'est que la dame s'est décalée sur les sièges de 4 de derrière et qu'une femme s'est levée et lui a laissé sa place.
Mais là, à la lumière de ce qu'on a dit avant, c'est plutôt le connard qui est défini plus que
c'est
le
vrai.
Con.
C'est vrai, il n'est pas si con que ça. Oui. Patrick, lui, a 70 ans, il est encore très actif dans le social, me dit-il. Quelle est sa définition des cons?
Des gens qui sont un peu à côté de la plaque.
Vous en connaissez?
Oh, tout le monde en croise. Ah ben, je ne les croise pas forcément physiquement, je peux aussi les croiser à la télévision.
Ah, là, ça m'intéresse. À quoi il les identifie devant le poste?
À ceux qui, au lieu de parler de l'intérêt général, parlent de leur intérêt particulier.
On veut un nom, ou des noms?
Oh, vous pouvez prendre plusieurs noms dans la classe politique, d'une manière générale.
Citez-moi un.
Vous voulez dire quelqu'un qui détacherait du lot?
Ouais, un champion.
Un champion, je sais pas, Monsieur Mélenchon.
Et bim, ça dénonce, sacré Patrick. Mon avant-dernière rencontre, c'est Paul. Il a 29 ans, il pose son tote bag au pied du rideau de fer qui protège la vitrine de sa boutique.
Bonjour, ça va?
Ça va et vous?
Ça va.
C'est quoi votre métier à vous?
Caviste.
Ah, alors mon cher Paul...
C'est quoi un con? Un con, il y en a partout, moi j'en ai un des fois dans le miroir, j'en vois beaucoup, des vieux cons, des jeunes cons, à la cave j'en ai beaucoup.
Ah sur le vin, il doit y avoir des cons sur le vin.
Alors sur le vin, il y a des cons qui sont intimidés, qui font comme si c'était quelque chose de grandiose, c'est trop sacré, et il y a aussi plein de cons qui croient qu'ils s'y connaissent. Qui ont connu un viticulteur et qui disent « Ah oui, il y a beaucoup de cons. »
Oui, on voit de qui on parle. On en vient à discuter.
Ce monsieur m'a-t-il croisé dans sa cave?
Peut-être.
Donnez-moi son nom, j'irai plus dans sa cave. Si c'est comme ça qu'on est remercié quand on achète 6 caisses de Bordeaux, merci monsieur.
On en vient avec Paul à discuter du film de Francis Weber et je lui parle de ce personnage fan de planche à voile, un ami de François Pignon. Il me dit que justement ça, aujourd'hui, ça a changé.
Mais en fait, je trouve pas ça con, par exemple, d'être fasciné par les planches à voile, parce que c'est un mec qui sait ce qu'il aime. C'est pas forcément ce que tout le monde aime. Et il a trouvé ce qu'il faisait kiffer dans la vie. Et moi, je trouve ça plutôt beau et plutôt intelligent. Mais maintenant, il est sûrement membre d'un forum de planches à voile avec plein de mecs qui trouvent ça génial.
Est-ce que les forums sont devenus des sortes de dîners de cons, mais alors sans les méchants, juste des passionnés? Ici, je croise la route de Françoise. Petite dame qui est devant son hall d'immeuble, on croise des voisins et des voisines.
C'est la bêtise, c'est tout un ensemble de bêtises, d'incompréhensions, d'exagération, de... Voilà.
C'est quoi un con ?
Bah, c'est un type avec qui il est difficile d'avoir des rapports tendus. C'est un monsieur. Je suis interviewé, cher ami. Vous pourriez peut-être répondre. Vous aussi. Ah, vous voulez
quel
pas ?
Quel sujet ?
Eh, on parle de la connerie. C'est quoi un con ?
Ça le fait pas rire.
C'est un peu lui. Non, mais je dois aller par là. Accompagnez-moi, s'il vous plaît.
Je l'ai accompagné.
Magnifique.
Alors, ça peut être un voisin, un client, un politique, un vrai con du métro ou un connard. Mais malgré tout, j'ai comme l'impression que l'époque a changé. On stigmatise un peu moins, on comprend plus. Peut-être que la vraie intelligence, c'est justement d'avoir appris à tolérer nos cons du quotidien, dont, indéniablement, nous faisons tous partie. Si, si. Même vous, Manon. Ça arrive.
Bonjour Bernard Julien.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Bernard, vous êtes maître de conférence en économie à l'Université de Bordeaux, spécialiste de la filière automobile française et européenne. Vous menez actuellement une étude sur les nouveaux usages de l'automobile et les conséquences de leur développement pour l'ensemble du secteur. Votre dernier ouvrage, Légère et abordable, les clés d'une voiture électrique à succès, est sorti au début de l'année aux éditions La Fabrique de l'Industrie. Bernard, sur les 8 premiers mois de l'année, le marché du neuf est en baisse de plus de 7% par rapport à l'année dernière en France. Comment on explique ces mauvais résultats ?
Bah, il y a à la fois des incertitudes très fortes qui pèsent sur les Français, qui font que s'endetter n'est pas la meilleure des stratégies, à leurs yeux certainement. Et puis il y a quand même une dérive des prix hein, qui n'est pas démentie pour l'instant et qui fait que les ménages s'équipent très massivement en véhicules d'occasion, hein, sachant que...
Oui, le marché de l'occasion, lui, il est en plein boom.
Il n'est pas en plein boom, en tout cas, il se porte aussi bien que les autres années. Hein, et ce qu'il y a de frappant sur le marché de l'occasion, c'est qu'on a une très grande appétence pour les véhicules plutôt anciens, hein, c'est-à-dire pour les véhicules de 10 ans et plus, qui constituent pratiquement la moitié du marché, hein, ce qui correspond au fait que, au fond, l'offre des constructeurs est très décalée par rapport à ce que les gens peuvent ou veulent mettre dans leurs véhicules, hein, parce qu'il y a des dépenses concurrentes qui sont très lourdes, celles du logement en particulier, mais pas seulement. Hein, il y a aussi les EHPAD de nos parents, il y a aussi les études de nos enfants, hein, et tout ce qui est de moins en moins bien financé par le public, hein, qu'il faut prendre à notre charge, et qui fait que la fenêtre de tir pour placer des véhicules, elle est quand même en train de devenir plus étroite, et les constructeurs ont du mal à le valider ou à développer des stratégies qui permettent de faire face à cela.
Pardon, mais d'où le succès peut-être d'une marque, enfin, d'une sous-marque comme Dacia, qui prend le parti de proposer des véhicules moins chers. Moi, je vois dès que je prends la route, j'ai l'impression de voir des Dacia partout. Pourquoi il n'y a pas plus de concurrents à une marque comme Dacia ? Parce qu'on a l'impression que c'est ça que veulent les Français.
Alors moi j'avais fait il y a 15 ans presque maintenant un bouquin sur la Logan hein, qui s'appelait l'épopée Logan avec des collègues et on essayait de comprendre pourquoi ça marchait et puis surtout pourquoi ça n'était pas imité. Mais... En fait c'est très compliqué de faire des voitures peu chères alors que c'est très facile de faire des véhicules plus chers.
Alors expliquez-nous ça, pourquoi ?
Bah parce que si vous voulez quand vous faites des véhicules chers, vous rajoutez des prestations et finalement il n'y a pas besoin d'être très malin pour faire des voitures obèses. Quoi. Hein, alors que si vous voulez faire des voitures qui sont optimisées et qui sont encore des voitures toutes en ayant des prix de revient de fabrication qui sont 4 fois moindres. Là, il faut effectivement, pour ne pas se tromper, rendre des arbitrages et être très malin dans la manière dont on rend les arbitrages à peu près à tous les niveaux.
Pour vous, la Dacia Duster est une voiture plus intéressante que la nouvelle Porsche 911 Turbo S ?
Bah, du point de vue des ingénieries, du point de vue du savoir-faire industriel, du point de vue de la capacité d'une entreprise à montrer ce dont elle est capable, plutôt oui. Il y a même des véhicules qui ont été développés en dessous de 5000 euros en Inde par Renault qui montraient effectivement combien l'ingéniosité des ingénieries de cette boutique-là était intéressante. Je crois qu'effectivement, le cœur des savoir-faire automobiles, c'est plutôt la grande série, c'est plutôt les prix bas plutôt que le haut de gamme.
Mais là, cette année au Salon Loto, on s'attend à ce que Renault dévoile sa nouvelle Clio 6, peut-être sa Twingo électrique. On pourrait un petit peu s'attendre à mieux, non ?
Alors, Renault, effectivement, a besoin, si vous voulez, d'avoir deux fers au feu. Hein. Il y a, je dirais, le produit mainstream qu'il faut continuer de développer parce que ce sont des vaches à lait, hein, d'autant que la Clio, elle est faite en Turquie aujourd'hui. Elle est dotée d'un moteur qui est très performant et ça reste un peu une vache à lait. Quoi, hein. Et donc, pour pouvoir prospérer, y compris dans l'électrique, il vaut mieux avoir un business as usual qui est suffisamment solide pour que le nouveau business puisse prospérer aussi. Hein, c'est la bonne vieille règle des multinationales et Renault a cette politique-là hein, et pour l'instant, ça a l'air de marcher plutôt pas mal hein, puisque Renault va avoir à la fois ces modèles thermiques, hein, et la Clio en particulier, et puis il y aura la R5 et la Twingo en électrique en face.
Est-ce qu'on n'est pas à un moment de bascule ? J'ai l'impression qu'on était parti sur le tout électrique et là, on a l'impression qu'il y a de plus en plus de modèles hybrides.
Oui, en fait, le cap qui a été donné hein, par Bruxelles est un cap de 100% en 2035, hein, donc il n'est pas très étonnant qu'en 2025, on ne soit qu'à 15 ou 20% et que les constructeurs tentent de vendre des véhicules thermiques. Hein, donc, dans les véhicules thermiques, on sait que le diesel avait une importance absolument fondamentale dans la gamme des Français en particulier, mais dans l'ensemble des, pour l'ensemble des constructeurs européens. L'avantage du diesel, c'est qu'il était assez peu émetteur de CO2, alors que l'essence l'est davantage. Donc, aujourd'hui, l'hybride, c'est l'alternative un peu plus propre au diesel, dans le catalogue des constructeurs,
un peu
c'est en train de prendre la place.
Un peu plus propre que le diesel, mais on peut lire pas mal d'articles de médias verts qui disent que l'hybride, c'est quand même un peu une arnaque écologique, parce que oui, si vous roulez sans recharger votre batterie,
ça pèse
plus lourd.
Ce sont des véhicules thermiques, hein, donc l'hybride rechargeable, c'est là qu'est probablement la grande arnaque écologique, parce que c'est présenté comme étant des véhicules verts, alors que comme ce sont souvent des cadres supérieurs qui ont ça comme véhicule de fonction et qui ont la carte carburant avec, ils rechargent relativement peu et on s'aperçoit que les émissions réelles sont loin du compte. Donc l'hybride, les constructeurs disent ce sont des véhicules électrifiés, en fait ce sont des véhicules qui pour l'essentiel sont des véhicules thermiques et qui permettent d'assurer la transition.
Et surtout très lourd, parce qu'on parle de SUV et les débris de particules fines, notamment qui sortent des freins, arrivent dans les villes. Ça c'est vrai, il faut le dire, on a une partie du parc automobile qui s'est un peu alourdie parce qu'on vend de plus en plus de SUV.
Oui, indéniablement, on a eu un alourdissement qui est lié au fait que les clients veulent tout, hein, ils veulent des petites contours d'une grande, ils veulent des véhicules qui permettent de trimballer 5 personnes ou 7 personnes, plus le chien, plus etc. Donc on a effectivement un espèce d'embonpoint qui est pris par les véhicules, qui correspond au fait que les quelques-uns qui achètent encore des voitures, qui sont plutôt des vieux riches, ils sont tellement caressés dans le sens du poil par tout le monde, hein, par les vendeurs de voitures, mais aussi par les vendeurs de croisières ou de contrats obsèques, qu'il faut leur donner tout, et que ça conduit effectivement à cette dérive que vous évoquez.
Manon.
Pourquoi la Chine a innové plus vite que nous sur le marché de l'électrique ?
Alors, la Chine, elle avait une ambition principale qui était de nous damer le pion, je dirais.
Ils ont réussi.
Réussir sur le thermique, c'était compliqué parce que nous avions une intériorité et par conséquent, déplacer le jeu vers l'électrique, c'était une manière, de régler quand même des problèmes écologiques et des problèmes de dépendance aux hydrocarbures qui sont très importants en Chine. Et puis c'était quand même aussi, et surtout peut-être, hein, une manière d'imposer un jeu dans lequel ils avaient des chances de gagner, ce qui n'était pas le cas pour le thermique.
Merci Bernard Julien d'être venu nous parler de ces bagnoles dont on a encore visiblement tant besoin. Suite de ce florilège de Zoom Zoom Zen avec un Zoom Zoom Test spécial vêtements de luxe. Et puis un sujet sensible, la transmisogynie dans le sport, avec l'historienne du sport Anaïs Bouillon, la veille sanitaire de Manon Mariani et la chronique de Lisa Perriot, c'est juste après Doshi, Wait, sur France Inter.
On it. Life is just like a bike, it don't move unless you better than less about who is better and more about who blessing them. Softer than gelatin, peanuts than elephants. You dumb as a boceros if you think it's irrelevant. My granny been popping zanny since CBS met the nanny. My mammy Danny, she tripper than Annie. And I'm not talking to family, but I've been dreaming of fishing since I've been watching the Grammys. And I'm here to stay like the shit in your panties. I need some standing ovation since y'all can't seem to understand me. I might look fly in the matrix, I hope I'm sticking my landing.
No need to bring fall back. My crib, still a baby by day, bad bitch by night, still applying my gloss from red to
to green light. Niggas calling my phone, bitches calling my phone, private calling my phone, blocking you off my phone. Bill collectors, roach and bug inspectors calling my phone. Who you checking if I'm disrespecting you with my tone?
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Comment parler du groupe Kering, poids lourd du luxe et de la mode, sans évoquer le drame qui s'est joué dans ce studio, souvenez-vous. Nous sommes le lundi 7 octobre 2024 et Zoom Zoom Zen fait un saut dans l'inconnu. Pour la première fois, nous parlons de mode. Pire, nous parlons de mode avec Loïc Prigent, le plus redoutable des journalistes mode. Pour l'occasion, Quentin, que l'on surnomme dans l'Alençonnais Tiny Tom Ford, avait revêtu sa plus belle pièce, son blouson Valentino Rossi. Il n'a fallu attendre que 17 secondes pour que le jugement de Loïc Prigent tombe, aussi cruel que celui de Guillemette, la fanzouze de Le Corbusier.
On dirait une étiquette de cagette.
Mais... l'histoire a finalement donné raison à ce précurseur, puisque Lando Norris portait le même blouson.
Lando Norris, peut-être.
Oui, Lando, moi je l'appelle Lando, comme un petit Lando, parce que vous savez, je suis père de famille nombreuse, et je connais plus les Lando que les, que
la
les Lando.
La justification est belle.
Le pilote de F1 a porté cette même veste.
Exactement. Peut-être un jour, Lewis Hamilton portera votre fameux pull blanc oversize. En tout cas, Quentin, je vous donne l'occasion de redorer votre blason et votre blouson avec ce quiz en mode bio-Tinder. Jouons au Zoom Zoom Test. Top, c'est parti, première bio. Coucou les gourmands. Marre de traîner avec des poufs habillés en pimki? Et si tu matchais avec une icône de l'élégance? Oui, mon nom est connu partout dans le monde. Comme Pierre Courade à l'hôtel Ibis Budget de la Porte de Bagnolet, j'ai même une chambre d'hôtel qui porte mon nom. Sauf que c'est pas un Ibis Budget et c'est pas Porte de Bagnolet. C'est Place Vendôme à Paris. Si tu y passes, demande la chambre numéro 5. Préférence pour
Chanel.
Coco Chanel.
Coco Chanel, oh oui, bonne réponse de Quentin, bravo. Coco Chanel qui, comme vous le sauriez si vous aviez eu la curiosité un jour de séjourner au Ritz, a vécu là-bas de nombreuses années. Mais c'est le problème, vous n'êtes pas curieux. Attention, on continue
c'est
de
pas ses
swiper.
Meilleures années.
Non, c'est pas ses meilleures années. Effectivement, c'est des années 40. Attention, on continue de swiper et on tombe sur cet autre bio Tinder. Salut bébé, je suis cette bête de sexe que tu désires mais que tu ne présenteras jamais à ta mère. Comme la Marianoche, mais en beaucoup, beaucoup plus cher. Je suis too much, oui, clinquante, un peu comme des iguales. Mais là encore, en 100 fois plus cher. Dorure, strass, imprimé fou, je m'autorise toutes les excentricités, à l'instar de celle qui m'a créé. La sœur de celui qui est mort assassiné, qui porte presque le nom d'une tortue ninja.
Vivienne Westwood,
Michelangelo,
Raffaello
et
Donatella.
Vous êtes vraiment des nulos en mode. Oui, fondée par la fratrie Gianni, celui qui est mort assassiné, Santo et Donatella Versace en 78, la marque italienne incarne l'excentricité dans toute sa splendeur et peut être résumée comme l'antithèse de la maison Blanc du Nil dont Cyril était géré senior pour l'Île-de-France et le Luberon.
Oh là là.
Mais restez sur le coup les amis, aussi affûté qu'un premier jour de sol sur Chine pour la prochaine bio Tinder. Kikou mes mignons. Pas souvent ici, plus Grindr que Tinder. Pas souvent à Paris non plus, plus souvent à Marrakech.
Marc Jacob.
J'ai un joli jardin très coloré. Mes créations, elles sont plutôt sobres. Si tu aimes mes smokings, mes sariennes, mes cabans, mes trench coats, tu seras peut-être mon mouton et je serai ton berger. Oh oui, bonne réponse, Yves Saint Laurent. Bravo Quentin. Toi, vous y connaissez un petit peu en mode.
Non.
Histoire de la mode,
un
en
peu.
Tout cas.
Il a vu le biopic avec Pierre Ninet, bon, comme tout le monde.
L'autre.
La marque, oui, c'est vrai qu'il y avait...
De Bertrand Bonnet,
avec Gaspard Huliel.
Où il est allé à Marrakech.
Oui, c'est tourné, mais les deux.
La marque Saint-Laurent, qui avait été rachetée en 93 par Sanofi, ça vous ne le saviez pas, et puis en 98 par devinez qui. Non, mais notre invité, bien sûr. Mais qui l'a rachetée en 98, la marque Saint-Laurent?
Ah ben, il n'y a pas de probal.
Ben non, je vous le donne, mais on fait l'émission là-dessus.
À Kering.
Oh oui, bien joué.
Pinot,
c'était pas Kering.
Oui, enfin, d'accord.
En plus,
oui.
Mauvaise réponse, non, c'était Pinot. Mais attention, main sur le buzzer, même si on n'a pas bio suivante. Mon nom est peut-être rigolo, mais mon chiffre d'affaires te donnera le vertige. Boots poussiéreuses, blouson bohème, faussement désinvolte. On dirait que j'en suis à mon quatrième jour au festival de Glastonbury.
Chloé.
Pourtant, on dit que les meilleurs animateurs radio portent mes pièces. Normal, il faut bien quelque chose pour habiller le talent.
Quoi?
Balenciaga? Non, je sais pas.
J'ai jamais porté de balancier. Quand je parle des meilleurs animateurs radio, c'est souvent de moi qu'il s'agit.
Quand Quentin, il pensait qu'on parlait de lui, pardon.
Mon nom est rigolo.
Votre nom est rigolo, je sais pas. Votre nom est rigolo.
connaissez la marque Isabelle Marant ?
Ah !
Je l'embrasse si elle nous écoute.
Mais, mais c'est pas du luxe, c'est du prêt-à-porter.
Je suis d'accord, c'est pas du luxe.
Ah, voilà, là, merci. Là. Bah oui, vous dites marque de luxe.
Je vous demanderai de ne pas vous en prendre à ma garde-robe. Mais continuons notre fashion dating. J'ai plus de cuir que d'empathie et je ne me laisse monter que par des cavaliers confirmés. J'aime les longs trajets, les attaches solides et le savoir-faire. Si tu swipes à droite, sache qu'avec moi, ça ne sera pas de l'amour mais du dressage. Hermès, bien joué. Bien joué, Quentin, saviez-vous ? Magnifique illustration sonore. Saviez-vous qu'Hermès était le fils et messager de Zeus et que c'est cette symbolique du message et du voyage qui a inspiré le nom de cette marque ? Non, vous ne le saviez pas, évidemment, normal, puisque la marque a été fondée par Thierry Hermès en 1837 pour fabriquer des harnais de chevaux. Comme quoi, des fois, on croit savoir et puis en fait, on ne sait pas. Victoire de Quentin Luy sur notre 3-0 et 1 et 2 et 3-0. Les sportifs transgenres sont-ils des sportifs comme les autres ? La sociologue du sport à la faculté des sciences du sport et de l'université Paris-Saclay, Anaïs Boyon, est avec nous pour décrypter le problème de la transmisogynie dans le milieu sportif. Anaïs, est-ce qu'on pourrait imaginer des compétitions intersexes où il faudra quand même toujours dissocier hommes et femmes ? Est-ce qu'il y a des compétitions intersexes ?
Alors, je ne parlerai pas d'intersexes parce qu'on pourrait penser que ça serait des
la formulation est maladroite.
Voilà. Plutôt des compétitions mixtes ou non mixtes.
Mixtes.
Voilà. Alors, il y a trois disciplines olympiques qui sont mixtes au JO, hein, donc le tir, la voile et l'équitation. Donc ça, ce sont les seuls au niveau olympique. Après, vous avez des disciplines qui ne sont pas olympiques, comme, je crois, l'ultimate, c'est une sorte de frisbee, etc. Vous en avez, mais tout le monde s'en fout, puisque ce n'est pas des disciplines olympiques, donc ce n'est pas des disciplines médiatisées, et personne n'en parle. Pour répondre à votre question, il faut également ne pas penser mixité à haut niveau. Pourquoi ? Parce que les femmes ont un siècle de retard dans la mise en mouvement de leur corps. J'ai fait mon doctorat en étudiant l'accession des femmes aux activités physiques et sportives de 1880 à 1922. Et qu'est-ce que je montre ? Je montre que l'accès des femmes aux activités physiques et sportives est jalonné de pathologisation, de freins, d'interdits, d'euphémisation, de désportivisation. Ça passe, et surtout, une réification de leur infériorité biologique. Pourquoi je dis ça ? Ça passe par le matériel. Elles vont lancer 4 kilos au lieu de 7 kilos. Ça passe par les disciplines interdites. Elles n'ont pas pu faire de football à haut niveau pendant des années, etc. etc. Et donc, c'est une comparaison impossible, et cette volonté, ça serait une grande injustice pour les femmes. Elles ont un siècle de retard d'interdits, de pathologisation, de sexisme à rattraper. Donc non, il ne faut pas penser la mixité. À haut niveau, j'entends. Mettre en mouvement les corps des petites filles et des ados de la même façon, bosser cette mixité, interroger cette mixité dès le départ, ça, c'est quelque chose qu'on pourrait envisager. On a un siècle de retard. Mais si vous voulez, ça ne suffira même pas d'envisager la mise en mouvement de leur corps de manière mixte. Il faut lutter contre le sexisme et la pathologisation de leur corps dans la vie de tous les jours qu'elles se prennent. L'accès à l'alimentation, voilà, tout est lié.
Dans les clubs amateurs, est-ce qu'on pourrait commencer par ça ?
Ah, bien sûr.
Comment ça se passe déjà en ce moment ?
Ça dépend des clubs. C'est hyper diversifié. Mais il y a certains clubs qui permettent à des jeunes filles de faire du foot avec des jeunes garçons. Ça arrive. La problématique, c'est la puberté. Souvent, à nouveau, on essentialise la puberté et on estime que... Moi, je l'ai vécu d'ailleurs. À partir du moment où on devient pubère, on va un peu démixer. Et moi, j'ai toujours posé la question de pourquoi on ne permettrait pas aux femmes, malgré la puberté, de pouvoir se mesurer à la norme dominante, donc la masculinité aux hommes, pour pouvoir accroître leur performance ou continuer à augmenter leur performance. Moi, j'ai jamais été aussi bonne au squash que depuis que je m'entraîne contre des hommes. C'est débile, mais c'est vrai, c'est une réalité. Et je progresse, donc voilà.
Est-ce qu'il y a la même discrimination envers les hommes transgenres dans le sport ?
Non. Pourquoi ? J'y viens. De la même façon que les femmes trans dans le monde du sport ne sont jamais considérées comme des femmes, donc comme des hommes, et donc voilà la flemme, les hommes trans ne sont jamais considérés comme des hommes, et donc on n'y voit pas un danger, on n'y voit pas une préoccupation, tout le monde s'en fiche, car on les renvoie à leur sexe assigné à leur naissance. Et c'est quoi ce sexe ? Il est considéré, je viens de le dire, nul, faible et dominé. Donc, on est encore dans la représentation, il reste dans la représentation de la catégorie dominée et dans une catégorie à laquelle on a assigné des caractéristiques moindres.
L'heure d'écouter la pièce jointe de Manon Mariani.
Aujourd'hui, un comité, il s'appelle le Comité Olympique et Paralympique des États-Unis, et c'est tout simplement l'organisme qui supervise la participation américaine aux JO. C'est le premier comité, je le précise, au monde à avoir inclus le mot paralympique directement dans son nom. Son rôle, coordonner près d'une cinquantaine de fédérations sportives nationales, financer les athlètes et représenter les États-Unis auprès du comité international olympique. À sa tête, il y a le président Ginny Sykes, un ancien homme d'affaires passé notamment par Goldman Sachs, et cette directrice générale, Sarah Hirschlen, ancienne directrice commerciale de l'Association américaine de golf. Et cet été, ce comité a donc fait parler de lui, car en juillet 2025, il a discrètement modifié son règlement pour interdire les femmes transgenres de concourir dans les catégories féminines. Tout ça part d'un décret signé par Donald Trump quelques mois plus tôt, intitulé « Keeping Men Out of Women's Sports ». En clair, garder les hommes hors du sport féminin. Ce texte fédéral menace de couper les financements aux organisations qui ne respectent pas la consigne. Le comité s'est donc plié à cette ligne politique. Il s'est justifié dans une note adressée à l'équipe olympique américaine.
Qui dit quoi ?
Eh bien, il dit qu'en tant qu'organisation à charte fédérale, il a l'obligation de se conformer aux attentes fédérales et que leur politique met l'accent sur l'importance d'assurer un environnement de compétition équitable et sécurisé pour les femmes. Le comité dédié aux athlètes, donc, se retrouve à appliquer une mesure imposée par le pouvoir exécutif au détriment d'une partie des sportives. Résultat, des associations de défense des droits LGBTQIA+, dénoncent une mesure purement idéologique. Le collectif Lambda Legal a par exemple parlé de lâcheté personnifiée. Le National Women's Law Center accuse le comité de sacrifier les athlètes trans pour un décret tout simplement transphobe. Et la controverse ne fait que commencer, car en voulant se mettre en conformité avec la Maison Blanche, le comité a ouvert une brèche, celle d'un sport olympique américain qui exclut pour la première fois toute une catégorie d'athlètes.
Merci Manon. Anaïs, est-ce que le comité olympique aurait pu refuser de se conformer au décret de Trump ?
Oui, parce qu'ils sont indépendants, oui, absolument.
Donc là, c'est faux quand ils disent qu'ils étaient dans l'obligation de le faire.
Ah oui, bien sûr. Ouais.
Maintenant, ce n'est pas Lisa Perriot que nous recevons pour parler de la transmisogynie dans le sport, mais Mary White, qui fait partie du mouvement des tradwives.
Oui, c'est ça, exactement. Je suis une femme dévouée à son mari qui est dans l'acceptation des défauts des autres, et je viens de, en fait, vous parler de mon association Football et Armes à Feu.
Oh là.
La chronique de Mary White, alias Lisa Perriot, c'est juste après Mira. Où vont les larmes sur France Inter ?
Où vont les larmes que l'on garde ? Où vont les larmes gardées ? Depuis ce matin, je regarde la rivière couler. Je sens, j'ai trouvé. Où sont les larmes cachées ? Je sens, j'ai trouvé. Où sont les larmes cachées? Dans l'eau noire, j'irai me baigner.
Dans l'eau noire, j'irai me baigner.
Nas águas escuras eu mergulharei. Je sens, j'ai trouvé. Où sont les larmes cachées? Je sens, j'ai trouvé. Où sont les larmes cachées? Dans
continuer de vous offrir peut-être un autre regard sur la transmisogynie dans le sport, nous recevons Mary White, qui est une tradwife.
Oui, alors bonjour. Mary White, à ne pas confondre avec Barry White. Hein. Lui, c'était un homme et moi, je suis vraiment blanche. Je suis mariée, 4 enfants et j'ai fait des tartes. D'ailleurs, vous voulez de la tarte ?
Merci Marie. Avant de commencer, plutôt, c'est quoi une tradwife ?
C'est une épouse qui s'occupe réellement de son mari et de son foyer, qui est à l'écoute de son mari. Enfin, pour faire simple, je gère toute la maison et mon mari, lui, me dit si je le fais bien. C'est ce qu'on appelle une équipe, comme dans le sport, n'est-ce pas ? C'est vrai, Anaïs, on est loin. En fait, ici, on est là pour prendre soin de son mari. Je suppose que vous aussi, c'est comme le but des femmes sur Terre. Vous voulez de la tarte ? J'ai fait de la tarte. J'en ai fait que 3, malheureusement.
Alors, merci Marie, mais vous venez nous parler, je crois, de votre association.
Oui, tout à fait. Donc, je suis la marraine de football et armes à feu dans notre quartier de Levallois-Perret. Les enfants, exactement, jouent au foot et les adultes tirent, parce qu'on adore tirer. J'adore tirer. Vous aimez tirer, Anaïs ? Vous êtes la bienvenue dans notre association, en tout cas. En fait, on accueille absolument tout le monde, les transsexuels, les bisexuels, les asexuels, les homosexuels, les pauvres, terribles maladies. Je les garde, hop là, signe de croix. Mais tout le monde est le bienvenu dans notre association des normaux jusqu'au moins. Et d'ailleurs, j'ai une nouvelle copine qui a rejoint l'association, Nathalie, qui est une femme trans et qui se plaint depuis sa transition. Elle me dit « Oui, je me fais siffler dans la rue. Oui, on me met des mains au cul. On a baissé mon salaire. » Et je lui dis « Nathalie, tu es une femme maintenant. Il va falloir t'endurcir. » Et puis, entre nous, Nat, tu pouvais choisir tous les prénoms que tu voulais. Pourquoi Nathalie ? Il faut dire les choses entre copines. Et en fait, Nathalie, si elle a rejoint l'association, c'est parce qu'en fait, à la base, elle aurait voulu faire du foot. Bah, Nat, non. Tu es tellement naïve, Nat. Tu es tellement une femme. Bien joué. Non, écoutez, comme dit mon mari, le terrain de foot des femmes, c'est la cuisine. Non, c'est vrai, parce qu'ils ont mis des matchs de foot à la télé, des matchs de foot féminins. Est-ce que les femmes regardent ? Bien sûr que non, parce qu'à 21h, la table, elle ne se débarrasse pas toute seule. J'ai oublié de vous dire, j'ai aussi fait des tartes sans gluten pour les intolérants. J'adore les intolérants. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des intolérants. Non. Ah bah, voyez ma copine Nathalie, trans, mais intolérante. Elle déteste les Noirs. Alors que moi, non. Vraiment, j'ai aucun problème avec les racistes. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. D'ailleurs, dans notre association, football et armes à feu, donc, je m'occupe de faire les maillots de foot de l'équipe. Enfin, les mamans ont fait ça. Hein, ce n'est pas les papas qui vont chacun son rôle. Et typiquement, dans l'asso, on a un petit garçon. Son fille trans, gentil en tout cas, comme il faut. Il s'appelle Dylan, hein, Dylan. Et bon, d'ailleurs, il pouvait choisir tous les prénoms qu'il voulait. C'est autre chose. Mais moi, je l'accepte, Dylan. Hein, je mets son maillot. Je lui donne quelle couleur à son maillot ? Rose, bleu, je ne sais pas. Donc, on ne sait plus, c'est vrai. Donc, j'ai fait violet. Mais violet, tout le monde le sait, c'est moche. C'est pas bien. Et je dis d'ailleurs tous les soirs à mon mari, violet, c'est pas bien. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut accepter les femmes. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Il faut accepter les femmes transsexuelles partout. Attention, parce que l'autre jour à l'école, on a invité des transsexuels pour parler de sexualité et des drag queens. Et là, moi j'ai dit non. Alors là, je dis pas souvent non, mais là j'ai dit non. Parler de sexualité à l'école, non mais alors, et pourquoi pas leur apprendre le consentement aux enfants aussi. Hein, ils vont faire comment après nos prêtres si les enfants apprennent à dire non. Voilà, il faut se poser les vraies questions.
Merci Lisa Perriot et merci à tous. À la réalisation de ce best-of, c'était Alicia Vullo. Nous, on se donne rendez-vous lundi en direct. À lundi.